Vous écoutez France Culture.
Bonjour Xavier. Que
Bonjour
nous arrive-t-il
Marc.
Sur la toile ?
Eh bien, on connaissait l'Internet qui reliait les machines entre elles. Ça, c'est le premier Internet à peu près. Aujourd'hui que nous sommes équipés de smartphones que nous ne quittons jamais et que nous avons des comptes personnels sur les réseaux sociaux, on peut dire qu'Internet relie les êtres humains entre eux. C'est le deuxième Internet. On prévoit dans un avenir proche l'émergence d'un troisième Internet, celui des objets, qui relierait donc des objets entre eux. Eh bien, ça n'est pas fini. Car aujourd'hui, certains travaillent à un quatrième Internet qui ne relierait plus seulement des machines, des êtres humains ou des objets, mais qui relierait aussi les animaux.
Ah !
Un Internet interespèce, c'est son nom. Et le projet est soutenu par des personnalités qui ne sont pas du tout négligeables. Hein. Par exemple, Vinton Cerf, qui est un des pères de l'Internet, qui est aujourd'hui chef évangéliste de l'Internet chez Google. C'est son vrai titre, hein. C'est pas une blague. L'autre qui soutient ce projet, c'est Neil Gershenfeld, qui dirige le Center for Bits and Atoms du célèbre MIT. Donc c'est pas rien non plus. La troisième personne, c'est Diana Reiss, qui est une chercheuse reconnue en sciences cognitives et qui est spécialiste des dauphins. Et la quatrième personne, c'est Peter Gabriel, le chanteur, dont on se demande ce qu'il fait là. Mais non, mais en fait, Peter Gabriel a pas mal travaillé avec les bonobos et a appris à certains bonobos d'accompagner ses mélodies avec un synthétiseur. Pauvre bonobo. Le constat sur lequel repose cette initiative est que les êtres humains ne sont pas les seuls êtres vivants à avoir une conscience, que c'est une grande vanité que de le croire, que les chercheurs ont prouvé que les animaux avaient une conscience d'eux-mêmes, qu'ils avaient des capacités d'apprentissage, qu'ils avaient même une culture qui évoluait et se transmettait. Le but de cet Internet interespèce est triple. Bon, c'est d'abord développer de la connaissance de la cognition animale, donner un peu de culture aux animaux captifs et faciliter la communication entre les espèces. D'accord, mais alors comment faire ? Alors évidemment, au tout début, là. Pour le moment, il s'agit juste de lancer des pistes. L'une d'elles, ce serait la création d'interfaces qui permettraient à d'autres espèces de montrer ce qu'elles sont et ce qu'elles savent. Pour ça, il faudrait leur donner les moyens d'interagir avec les machines, c'est la première piste. Et le petit groupe a vraiment l'air d'y croire. Neil Gershenfeld, qui dirige, hein, je rappelle, un précieux, prestigieux laboratoire du MIT, explique que si cet Internet nouvelle version devait exister un jour, si grâce à lui on parvenait vraiment à une meilleure communication entre les espèces, il pourrait servir de base à un autre Internet, un Internet intergalactique qui nous permettrait de communiquer avec les aliens. Il est au MIT. Hein. Ça me semble important, tant les problèmes d'incommunicabilité avec les aliens empoisonnent notre quotidien. Alors, il ne faut pas se moquer. Comme l'expliquent les ufologues, la meilleure preuve qu'il existe d'autres êtres intelligents dans l'univers, c'est qu'il est impossible de prouver qu'il n'en existe pas. Autant se préparer. Mais avant cet Internet, nous permettant de converser avec les aliens, et puisque nous sommes au sein de l'agriculture, essayons d'imaginer un monde où les agriculteurs et les éleveurs pourraient bénéficier d'un Internet interespèce. Imaginez un monde où l'éleveur serait en connexion avec ses vaches.
Ou ses chèvres,
oui. C'est déjà le cas.
Alors, il connaîtrait... Non, mais, mais dans une connexion... vraiment, mais une vraie connexion, pas la vôtre, mais... quoi, pas la connexion affective.
C'est ça notre métier, mais connexion... c'est pas connecter.
Pas une connexion, une connexion avec des machines, quoi, un vrai truc. Où il saurait, par exemple, que Marguerite et Noiraude ne sont plus copines. Imaginez que Monsieur Seguin ait vraiment su ce qu'il fallait donner à Blanquette.
Monsieur Seguin, c'est Benoît Carré aujourd'hui.
Voilà. Ouais, voilà. Ou même, pour ceux qui ne sont pas éleveurs, imaginez un agriculteur qui sera en relation vers une interface adéquate avec la horde de sangliers qui projette de venir massacrer sa plantation de jeunes pommiers. Qu'il puisse s'interposer et négocier. Imaginez un monde où vos poules vous demanderaient comme amis sur Facebook. Parce que la relation pourrait être réciproque.
C'est ce qu'elles font en ce moment sur l'agriculture. Les coques, en tout cas, ça y va.
Oui, mais je vous demande pas. Vous auriez plein de followers sur Twitter, Marc, enfin. Mais parce que la relation pourrait être réciproque. Les animaux pourraient s'intéresser à l'éleveur, lui remonter le moral, participer à son effort. Mais je pense qu'il faudrait aussi anticiper les conséquences politiques d'un Internet interespèce. Parce qu'il pourrait servir de lieu de mobilisation des animaux mécontents. Et si les pintades s'apercevaient un jour que les cochons aussi en ont marre. Imaginez que les abeilles et les pucerons, imitez le puceron maintenant. Imaginez que les abeilles et les pucerons s'allient parce qu'ils en ont marre, par exemple, d'être exterminés par les pesticides. Ça donnerait quoi ? Eh bien, ça donnerait la ferme des animaux de George Orwell. Ah. C'est-à-dire que les animaux qui se révoltent excluent les hommes. Incroyable, c'est George Orwell. Non seulement avait prévu une société de la surveillance en 1984, mais il avait même vu au-delà, hein, il avait prévenu l'avenir de l'agriculture. Trop fort, George Orwell.
C'était la chronique sous acide et OGM de Xavier Delaporte.